je pense que nous allons reprendre, ou je vais reprendre. Donc, en fait, je vous ai fait exactement ce que j'avais proposé dans le titre, de passer d'Aristote à Waddington, et je me suis arrêtée là. Mais comme vous allez voir, au niveau de l'épigénétique, de cette discipline, les choses ont d'abord stagné pendant plusieurs décennies, au grand désespoir de Waddington, en fait, et ensuite ont accéléré à une vitesse incroyable. Donc, je vais continuer un peu le voyage historique. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas historienne des sciences. Donc, si parfois il y a une petite erreur qui se glisse, soyez indulgents. Mais je pense que c'est important maintenant de voir comment cette période extrêmement excitante du milieu du XXe siècle, où la biologie moléculaire est née, où la découverte de la double hélice est le début, les origines de la biologie moléculaire, ont fait que finalement la génétique a encore plus accéléré dans son chemin et l'embryologie encore plus s'est éloignée quelque part de la génétique jusqu'aux années 80. Donc juste pour un bref résumé, je pense que vous savez tous que la structure de l'ADN a été résolue en 1953. Cette molécule fantastique qui nous a permis de comprendre comment finalement, de quoi étaient constitués les gènes, les chromosomes, et comment l'hérédité pouvait s'expliquer. Et le point peut-être le plus important, enfin je trouve très intéressant, c'est qu'à la fin du papier dans Nature de Watson et Crick, ils ont dit, et je vais quand même le lire en anglais parce qu'en français, je pense que ça sera terrible. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. Donc, ils ont tout de suite vu la beauté de la structure, nous montrer comment on pouvait répliquer ce matériel pour que cette fameuse division cellulaire, à chaque division cellulaire, le matériel génétique soit distribué de manière égale entre les deux cellules filles. Donc, ils ont bien compris qu'effectivement, cette molécule de deux brins pouvait être facilement recopiée. Et c'était peu après, et je pense que là, je vais faire très, très brièvement, mais que le code génétique a donc été compris, qu'à partir de l'ADN, on produit l'ARN, et que ce code, dans ce transcrit qui est produit à partir de l'ADN, peut être exploité, traduit en protéines, et c'est ces protéines qui font toutes les structures des cellules et des organismes. Et donc ce code génétique a permis de tout de suite comprendre l'importance des gènes, de leur contenu, et aussi de réaliser que les mutations, les changements qui ont été décrits de façon, je dirais, presque abstraite par les généticiens comme Morgan et d'autres. Finalement, il s'agissait tout simplement, souvent, de changements nucléotidiques qui faisaient que soit le gène ne produisait plus d'ARN ou que l'ARN produit portait un changement dans le code génétique qui faisait que la protéine n'était pas fonctionnelle. Donc la base de la mutation dans cette molécule d'ADN. Et donc, le dogme central de la biologie moléculaire, je pense que vous le savez tous, hein, l'ADN produit l'ARN, produit la protéine, et que, effectivement, cette dogme qui est centrale n'a pas beaucoup bougé, mais je pense que vous allez voir que, finalement, les rôles, surtout de l'ARN, dont la mise en œuvre du développement et des fonctions de la cellule et de l'individu, sont devenus très importants, même si, évidemment, les protéines sont la clé de tout, de notre structure et de nos fonctions. Donc, pour revenir à l'épigénétique, cette question avec la découverte de l'ADN, je pense que si j'étais Waddington, quel bonheur d'imaginer qu'on pouvait enfin réaliser de quoi il s'agissait. Mais on était encore très, ou il était, ou la communauté était encore très très loin de comprendre. comment donc les gènes et l'ADN qui constituent les gènes peuvent contrôler le développement des organismes complexes à partir d'un œuf fécondé. Et même avant l'opérant l'acte de Jacob et Monod, je voulais quand même citer les travaux de Barbara McClintock, qui était une généticienne américaine, qui a eu un prix Nobel pour ses études sur ce qu'elle appelait les éléments contrôleurs, controlling elements. En fait, il s'agissait des éléments transposables. Ce sont des séquences qui sont dans notre génome ou dans les génomes des plantes et d'autres organismes qui peuvent bouger et qui finalement représentent une très grande partie, par exemple, de notre génome, jusqu'à plus que 50% de notre génome est fait de ces éléments transposables, qui ne sont pas là pour produire une protéine qui est utile à nos fonctions, qui sont quelque part peut-être des parasites, mais elle, sur la base de la génétique et la cytogénétique, elle a réalisé à quel point ils étaient importants, parce qu'elle réalisait qu'effectivement, en fonction des locus qu'elle avait cartographiés, qui étaient associés à ce type d'éléments contrôleurs, elle avait proposé que le temps d'activité de ces éléments pouvait avoir une influence sur l'activité génique qui pouvait donc influencer le développement des tissus. Donc en fait, au début, quand elle parlait de ça, elle parlait véritablement d'éléments transposables qui bougeaient dans le génome. Donc on a réalisé que ce n'était pas tout à fait comme ça que le développement se passait. Ce n'étaient pas des éléments mobiles qui arrivaient à contrôler des gènes de manière un peu, comment dire ça, dangereuse. Mais elle avait quand même raison, au final, parce que c'est ces éléments transposables, ces éléments répétés, qui peuvent parfois influencer un gène à côté, le voisin, pour modifier son expression. En tout cas, même si au niveau du mode précis que ces éléments contrôleurs pouvaient fonctionner, elle avait la vision qu'effectivement, il fallait contrôler les gènes. Il fallait que les gènes, qui étaient tous présents et les mêmes dans toutes les cellules, soient exprimés de façon différente au cours du développement afin de différencier les cellules. Donc, elle a écrit sur ça, elle a beaucoup décrit ce qu'elle voyait, donc surtout chez le maïs, hein. Et puis, comme vous le savez, dans les années 60, il y avait la découverte majeure et l'hypothèse de Jacob et Monod avec leur modèle du lac opérant. Et c'était une avancée majeure parce que ça nous a permis quand même de comprendre que ce soit les bactéries ou les cellules des eucaryotes, les gènes devaient être régulés, activé ou éteint. Donc, dans une bactérie, en fonction de la présence de lactose ou pas, un gène devait être activé ou pas. Et donc, Jacob et Monod ont aussi cité à la fin de leur papier, comme McClintock l'avait fait pour le maïs, que peut-être ce qu'ils avaient vu dans le contexte des bactéries, avec un système extrêmement simple, des gènes avec un promoteur et éventuellement opérateur qui pouvait influencer la manière que l'ARN était exprimé ou pas, avec un répresseur qui pouvait l'éteindre ou en son absence activer ce gène, que peut-être chez les eucaryotes, donc les eucaryotes supérieurs ou inférieurs, il y avait aussi des systèmes similaires d'activer ou inactiver les gènes. Et donc, pendant plusieurs années, il y a eu pas mal de débats sur comment ça pouvait fonctionner. Beaucoup de papiers très hypothétiques. Mais je voulais quand même souligner que déjà en 1934, Thomas Hunt Morgan avait proposé qu'il pouvait avoir des batteries des gènes qui pouvaient être exprimées de façon différente à différents stades du développement. Donc lui aussi, il a eu la vision. Alors, il n'a rien proposé comme explication de comment ça pouvait fonctionner. Simplement, il a constaté, je pense qu'il a fait ce constat au moment où il a donné sa présentation, quand il a eu son prix Nobel, que la prochaine étape, c'était de comprendre comment peut-être des batteries de gènes pouvaient réguler le développement. Donc, ces fameux réseaux géniques de Waddington. Mais là, il s'agissait, en fait, d'activation ou d'inactivation. Et comme je disais, il y avait pas mal de papiers complètement théoriques qui sont sortis à l'issue du papier de Jacob et Monod. Par exemple, Britton et Davidson ont beaucoup écrit sur les modèles éventuels de réseaux de gènes différents, de différents types de réseaux entre les jeunes qui pouvaient avoir des répresseurs ou aussi des activateurs, donc une régulation positive ou négative, et que ces activations avec des signaux externes, des activations géniques ou la répression génique, pouvaient justement être importantes pour le développement. Mais alors, c'était, comme je disais, totalement hypothétique, avec pas vraiment de passage à l'acte pour comprendre comment ça pouvait marcher. Alors, Waddington lui-même, très inspiré donc par le papier de Jacob et Monod, a proposé, justement, à la suite des expériences de Spemann et Mangold et ses propres expériences, ce fameux système d'induction, que peut-être, justement, il pouvait avoir des opérants aussi, des éléments, des gènes structurels et des gènes régulateurs qui étaient importants, d'une part, pour produire les substances régulatrices. Les évocateurs pouvaient donc arriver soit de façon naturelle, donc eux-mêmes à partir de l'expression des gènes, soit de façon innaturel, donc l'apport de signaux chimiques apportés à un embryon, qui pouvait donc avoir un impact sur l'expression de certains gènes pour générer certains messagers ARN qui pouvaient donc induire une différenciation spécifique dans une lignage ou autre. Et donc, il a proposé qu'effectivement, on pouvait expliquer le développement ainsi, mais là aussi, on était complètement ignorant sur la nature des gènes et de leur régulation pour expliquer le développement. Et donc, il y avait ce passage, comme je l'ai dit, de plusieurs décennies de vide presque, où la science était extrêmement excitante, la biologie moléculaire, on commençait à vraiment pouvoir manipuler l'ADN comme on voulait, commencer à créer même des animaux et des organismes modifiés. Pendant cette période, par contre, la compréhension des bases de l'embryogenèse au niveau de la régulation génique était quasiment totalement inconnue. Alors, il y a eu pas mal de tentatives, que ce soit en utilisant la drosophile comme un système un peu plus simple que un mammifère, par exemple. Mais effectivement, il y avait un moment, je dirais, d'absence jusqu'aux années 80, où là, effectivement, les travaux de Nusslein, Volhart et Vichard qui ont mis en place ce fameux crible dont j'ai parlé un petit peu dans ma leçon inaugurale, ont défini finalement les gènes régulateurs du développement. Et donc, c'était le début de la génétique développementale, là aussi fait chez la drosophile, où on a commencé à identifier les gènes qui peuvent réguler les premières étapes de l'embryogenèse et sont importants pour l'établissement des patterns au niveau de l'embryon et de l'individu qui va apparaître. Donc, même si la bactérie était extrêmement puissante, pour comprendre l'éléphant, il fallait quand même encore quelques temps et quelques efforts. Et donc, je réalisais qu'il fallait quand même que je vous décrive à minima la manière que les gens imaginaient à l'époque que les gènes étaient régulés. L'idée, c'était qu'effectivement, comme dans le système du lac opérant, il y a une région promotrice qui est reconnue par un complexe qui permet la transcription, la production de l'ARN, donc la polymérase, et des facteurs associés qui sont essentiels pour cette activité de production de l'ARN. Mais pour que cette RNA polymérase arrive à un promoteur particulier, on a réalisé qu'il faut aussi ce qu'on appelle des facteurs de transcription ou même peut-être des répresseurs qui sont associés en cis. Et donc, pendant cette époque, des années 70-80, les gens ont décortiqué un petit peu quel type d'éléments il fallait pour réguler un gène. Alors, c'est loin d'être fini. On réalise encore qu'il nous manque de l'information, en tout cas pour tout ce qui est la régulation des organismes, des eucaryotes supérieurs. Il nous manque de l'information par rapport à la réelle étendue et contenue de ces éléments de séquences régulateurs sur lesquels vont se fixer des facteurs précis. Mais en tout cas, nous avions une idée donc, de cette organisation. Mais alors, comment attaquer la nature réelle de ce qui était important pour la biologie du développement? Donc, on en était là. Et on a réalisé aussi que ce n'était peut-être pas aussi simple chez les eucaryotes. Non seulement ils sont plus complexes, mais aussi parce que leur génome est plus complexe et les protéines associées à l'ADN, leur chromatine qui a été décrite bien avant, comme je l'ai mentionné, est certainement plus complexe. Et donc déjà dans les années 1928-29, Emil Heinz avait déjà décrit que dans le noyau des eucaryotes, la chromatine n'est pas homogène. Il y a de l'hétérochromatine qui est plus condensée et de l'euchromatine qui est plus ouverte. Et donc, cette distribution différente de chromatine donnait déjà l'idée que peut-être, effectivement, le génome n'était pas toujours aussi accessible. Et Bob McClintock a utilisé ce type d'analyse, d'étude pour déjà proposer qu'effectivement, ces fameux éléments contrôleurs, éléments transposables, bougeaient différemment ou fonctionnaient différemment en fonction de leur présence dans l'euchromatine ou l'hétérochromatine. Et il y a eu aussi la découverte, déjà en 1949, qu'un bloc d'hétérochromatine de ce type pouvait être retrouvé de façon spécifique chez les femelles mammifères, chez les chats. Dans les neurones de chat, Bertram et Barr, donc des cytologistes canadiens, ont remarqué que les femelles avaient toujours un petit corpuscule d'hétérochromatine en plus par rapport aux cellules mâles. Alors, ce n'est pas si évident à voir ici, mais c'était assez systématiquement à la périphérie du noyau, ils voyaient ce petit bloc d'hétérochromatine. Voici de la microscopie électronique plus récente qui montre qu'effectivement, cette structure est bien condensé et souvent associé à la paroi nucléaire. Et c'était en 1961 qu'une généticienne, Mary Lyon, britannique, a réalisé que, effectivement, ce corpuscule de Barr était un des chromosomes sexuels de la femelle. Donc, un des deux chromosomes X était inactif, était hétérochromatique. Donc, n'était plus exprimé. Les gènes qui étaient portés par ce chromosome X semblaient silencieux et présent dans cette hétérochromatine. Et comme je l'ai dit, Barbara McClintock a aussi réalisé que les changements qu'elle voyait dans le maïs qu'elle étudiait en quantité, qualité ou organisation de ces éléments contrôleurs qui étaient hétérochromatiques ou pas, pouvaient changer la manière qu'ils pouvaient bouger, se transposer ou influencer éventuellement les gènes à côté. Et donc, déjà, encore en 1950, elle avait fait le lien entre la chromatine et l'activité génique. Mary Lyon, en 1974, sur la base de ce qu'elle avait décrit pour le chromosome X, avait fait ce schéma où elle a classifié un petit peu la chromatine dans son état fonctionnel, un petit peu comme Barbara McClintock l'avait fait aussi, pour dire que ben voilà, il y avait de la chromatine qui était codante, donc qui pouvait produire des protéines, et qu'elle était soit active, soit inactive, comme le chromosome X inactif. Donc ça, c'est l'hétérochromatine facultative, on appelle, donc une chromatine qui peut être soit active, soit inactive, et qui ne pouvait plus répondre à des signaux pour la transcription. Il y avait aussi la chromatine non codante, donc où il n'y avait pas de gène présent. On peut dire que ça, c'est l'hétérochromatine constitutive qui n'a pas de fonction transcriptionnelle ou pour la production des protéines. Et donc là, vous allez encore, pendant le séminaire plus tard, vous allez entendre plus sur la nature, peut-être pas aussi silencieuse que ça, de l'hétérochromatine constitutive. Mais en tout cas, globalement, ces descriptions étaient assez visionnaire, on peut dire, que voilà, il y avait de l'hétérochromatine qui était soit toujours silencieuse, soit silencieuse mais qui pouvait être active. Et pour la chromatine qui était active, elle pouvait aussi être en repos, a dit Mary Lyne, donc où il n'y avait pas de transcription, mais où il y avait peut-être des répresseurs présents qui étaient temporaires. Donc il y avait toutes ces descriptions en absence finalement de vraies connaissances de la manière que tout ça était contrôlé, mais une réalisation qu'effectivement chez les eucaryotes, c'était pas aussi simple que chez les prokaryotes, où effectivement on peut exprimer ou pas un gène très rapidement en fonction des stimulus qui sont présents. Les choses étaient peut-être un peu plus inaccessibles et difficiles à réguler chez les eucaryotes. Et donc, c'était à ce moment où il y a eu un grand changement, où finalement, c'est comme si le monde scientifique, le milieu scientifique, attendait un peu l'explication de l'épigénétique de Waddington, mais il n'y en avait pas, enfin, ça n'arrivait pas. Et donc, du coup, on peut dire que le mot a été volé, quelque part, presque, a été transformé. Et il y a eu une transition assez impressionnante, où la notion de héritabilité a été mise dans le contexte du mot épigénétique. Donc, dans la définition de Waddington, il n'y avait pas forcément la notion d'héritabilité. Il s'agissait des changements, maintenant qu'on sait qu'il s'agissait de gènes, on peut dire, les changements de la régulation de gènes et de leur activité au cours du développement. Ça, c'était évident qu'il fallait que ça se passe comme ça. Mais pas forcément cette notion d'un état qui est établi et qui ensuite est maintenu au cours des divisions cellulaires. Et alors pourquoi ce changement d'utilisation? En fait, c'était l'époque où on commençait à cultiver des cellules, à mettre les cellules de manière efficace en culture, à développer les milieux de culture qui permettaient de les garder. Et c'était à l'époque où moi et certains de mes collègues ici ont commencé aussi. Et donc, en fait, c'était un moment, effectivement, un peu de fascination parce qu'on prenait une cellule de la peau ou une cellule de la rétine, on la mettait en culture, elle ne changeait pas de phénotype, elle ne changeait pas de caractère, elle ne devenait pas tout d'un coup un lymphocyte. Donc, il y avait eu cette réalisation qu'en dehors du contexte de l'organisme, de l'individu, du tissu, on pouvait prendre des cellules et elles gardaient leur identité. Donc ça, c'est peut-être évident maintenant, parce qu'on sait qu'on peut cultiver des cellules de toutes sortes, de manière stable. Mais c'était une révélation pour les scientifiques à l'époque de réaliser qu'effectivement, ils pouvaient vraiment maintenir l'état de manière stable au cours des divisions cellulaires. C'était aussi le début de la culture des cellules souches embryonnaires et d'autres cellules souches, où on voyait qu'on pouvait déclencher de la différenciation in vitro. On pouvait rajouter des molécules, comme l'acide rétinoïque, et déclencher un changement de morphologie et d'état de la cellule. Donc, on pouvait la différencier. Et alors, la question était, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que l'activité des gènes doit changer? Mais comment? Et donc, là, il y a eu la réalisation qu'il y a des gènes qui sont, on va dire, spécialisés, les gènes de luxe, qui ne sont pas exprimés tout le temps, mais que dans certaines situations ou avec le déclenchement de certains signaux. Et puis, il y a d'autres gènes qu'on appelle les gènes de ménage qui sont toujours là et qui doivent fonctionner pour que la cellule puisse survivre. Et que peut-être ce qui était en train de se passer quand on voyait ces changements morphologiques après différenciation, c'était que les gènes de luxe étaient en train de s'activer ou s'inactiver, comme au cours du développement. Et que, très important, une fois que ce déclenchement a été fait, il était stable. Ces cellules, elles ne changeaient pas d'avis, elles ne revenaient pas en arrière. Une fois qu'on a rajouté le déclencheur, les cellules, elles restaient différenciées pendant quelques temps. Elles arrêtaient en général de se diviser, il s'agissait bien des cellules primaires, mais effectivement, elles ne changeaient pas de caractère, en tout cas pas immédiatement. Troisième source d'information, c'était ce fameux processus d'inactivation du chromosome X, qui a été découvert en 1961, qui était là, et il fallait quand même l'expliquer. Parce que donc, Mary Lyon avait postulé, et la génétique collait parfaitement avec ça, qu'une femelle qui a deux chromosomes X ne va pas exprimer les deux X. Un des deux va être éteint au cours du développement, et cette extinction va rester dans toutes ses cellules somatiques. Donc, chaque femelle est une mosaïque de cellules qui exprime soit le X venant du père, soit le X venant de la mère. Comment expliquer ça? Comment expliquer cette façon de choisir un des deux chromosomes à inactiver, mais ensuite de le garder de manière si stable au cours des divisions cellulaires? Et en culture, parce que ça, c'était quelque chose qui a été fait, prenant les cellules d'une femelle et en les mettant en culture de cellules, on voyait bien que le statut du chromosome X inactif ne changeait pas. Il restait bien inactif. Et puis aussi, il y avait certains phénomènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne collaient pas avec la génétique mendélienne, comme l'inactivation du X, qui n'était pas forcément ce qu'on attend. Quand on a deux chromosomes X, on attend que les deux soient exprimés, donc une mutation qui est récessive, normalement, ne va pas être visible, mais dans un cas où un des deux allèles est éteint, l'allèle récessif, il est vu comme chez les mâles. Donc en fait, il y avait cette réalisation que ça ne collait pas avec les hypothèses de Mendel. Il y avait aussi d'autres phénomènes chez les plantes, beaucoup, la paramutation chez le maïs. Donc Barbara McClintock avait aussi travaillé sur ça, l'empreinte génomique. Donc tous ces phénomènes un peu bizarroïdes à l'époque, finalement, se sont bien avérés être des phénomènes avec une base génétique qui avait quand même une couche épigénétique et donc qui vont être couverts dans les cours dans les prochaines semaines. Et alors pourquoi, quel était le déclencheur finalement, parce que les scientifiques, on peut dire, ils ont fait ces constats de cette stabilité des cellules en culture, de cet état inactif du chromosome X, mais ce n'était pas pour autant que ça allait changer la compréhension. La découverte majeure ou la réalisation majeure qui a fait que l'épigénétique a vraiment pris de l'élan, c'était quand même la réalisation qu'il y avait une base moléculaire pour expliquer au moins une partie de ces phénomènes. Et c'était donc la méthylation de l'ADN. Donc c'était la réalisation qu'un groupement chimique qui pourrait se rajouter sur la cytosine de l'ADN, un 5-méthyl qui pouvait se rajouter, pouvait peut-être avoir une influence. Alors, la méthylation de l'ADN a été déjà découverte dans les années 50. On savait, donc c'était les expériences de plusieurs labos, on savait que l'ADN dans plusieurs organismes avait cette forme un peu différente d'ADN. Donc l'ADN était toujours le même, il y avait cette modification chimique qui était rajoutée dans certains cas et à des proportions différentes. Donc ça a été vu, ça a été décrit, et c'était en fait, en regardant de manière plus précise la manière que finalement cette méthylation de l'ADN pouvait influencer ou pouvait être transformé, parce que cette changement chimique pouvait être transformé par un processus chimique en C de A en T. Et donc, en fait, on a réalisé qu'effectivement, cette modification était peut-être une manière de changer d'état. Finalement, il s'est avéré que ce n'était pas du tout la bonne piste par rapport à l'épigénétique. Mais c'était les données dont, au début des années 70... un Italien, en fait, Scarano, qui avait proposé de manière complètement hypothétique que peut-être la méthylation de l'ADN pouvait être une manière d'expliquer comment on pouvait avoir un changement d'état d'un gène. Et donc, c'était en 1975 que deux scientifiques indépendamment, Robin Holliday et Art Ricks, ont postulé que la méthylation de l'ADN pouvait éventuellement avoir un impact sur l'expression génique. Alors, c'est quand même assez visionnaire, parce qu'ils n'avaient aucune preuve à l'époque de ça. Les deux papiers qui sont sortis en 1975 étaient totalement hypothétiques. Mais ils s'avèrent sont presque totalement vrais. Donc, l'hypothèse était qu'effectivement, il y a peut-être une influence sur l'expression génique, que les changements dans la méthylation, dans l'état de méthylation, pouvait du coup expliquer les changements d'expression des gènes au cours du développement. Ils ont prédit que pour expliquer ça, il fallait quand même l'existence d'enzymes qui pouvaient donc méthyler certaines régions de l'ADN, soit de façon séquence spécifique, c'est-à-dire ils allaient reconnaître certaines séquences de l'ADN et aller les méthyler de manière très ciblée, ou via une interaction avec d'autres protéines qui allaient interagir avec l'ADN de manière séquence spécifique et amener avec eux l'enzyme qui allait méthyler l'ADN. Donc ça, c'était avant qu'on connaisse qu'il y avait donc des enzymes, méthyltransférases et autres. Ils ont proposé qu'il fallait que ça existe. Et encore plus étonnant, plus fort, ils ont réalisé que pour que ce soit des profils héritables de méthylation, pour expliquer ces aspects-là de leur hypothèse, il fallait qu'il y ait des enzymes aussi qui maintiennent cet état et qui sont capables de reconnaître l'ADN au cours de la réplication dans son état hémiméthylé, parce qu'à chaque réplication de l'ADN, un bras pourrait garder ces rajouts chimiques de méthyl, mais l'autre bras nouvellement synthétisé allait le perdre. Donc il fallait prédire qu'il y avait des méthyltransférases qui allaient s'associer spécifiquement avec cet ADN hémiméthylé, le reconnaître, afin de rajouter la méthylation sous le brin nouvellement produit. Et donc ils ont proposé que si tout ça était vrai, ça pouvait expliquer effectivement des profils héritables d'ADN méthylé ou non méthylé de façon stable au cours des divisions cellulaires, et que ça pouvait aussi être la base de l'héritabilité de certains patterns d'expression de gènes, comme par exemple dans le cas de l'inactivation du chromosome X. Et donc voilà, ici je vous montre les deux scientifiques en question, Robin Holliday et Art Riggs. Holliday qui est toujours, il est en Australie, il est maintenant sculpteur, mais qui était un des très grands généticiens qui avait étudié la recombinaison. Donc pour ceux qui connaissent la recombinaison, c'était lui du Holliday Junction. Et donc il a décidé d'attaquer cette question du point de vue, quand on lit ses papiers, c'était vraiment avec un point de vue de recombinaison et réparation qu'il avait étudié la méthylation de l'ADN et les implications éventuelles. Et effectivement, certains aspects de ces hypothèses n'étaient pas tout à fait vrais, mais en tout cas, les prédictions étaient tout à fait valables et validées par la suite. Donc, au début de son papier qui était publié dans Science en 1975, voici ce qu'il dit. Que donc deux scientifiques qui travaillaient sur qui avaient découvert la méthylation de l'ADN, qui savaient qu'il y avait de la méthylation, avaient déjà suggéré que peut-être des bases modifiées d'ADN pouvaient être des porteurs des changements héritables dans la séquence, et que ces changements pouvaient effectivement contrôler l'activité des gènes adjacentes. Et dans ce papier, on a exploré donc ces hypothèses plus, et donc ils ont émis tout ce que je viens de vous décrire dans la diapo précédente. Riggs, de son côté, de manière totalement indépendante, lui, il est intéressé par l'inactivation du chromosome X. Et il avait réalisé qu'effectivement, les cellules en culture, femelles, gardaient un X inactif et l'autre pas. Et donc lui, il a proposé que, donc, dans cette situation, peut-être les gènes du X... En fait, au début, il s'est trompé. Il avait dit que peut-être les gènes du X actif étaient méthylés et les gènes du X inactif étaient non méthylés. Bon, il a très vite inversé la situation quand ils ont passé, en fait, à faire les expériences. Mais en tout cas, dans ce papier, il a proposé que cette méthylation de l'ADN pouvait expliquer le traitement différentiel des deux chromosomes X, des gènes du X, et aussi être lié à leur activité. Oh ben voilà, ça c'était c'est pris d'un des papiers, et donc c'est juste ce que je viens de décrire dans la diapo précédente, qu'effectivement, à chaque réplication, il faut une méthyltransférase pour renouveler la méthylation. Ce que je montre, je pense, de manière plus claire dans un instant. Ici, c'est juste pour vous montrer effectivement que quelques années plus tard, les méthyltransférases responsables ont été quand même découvertes, donc DNMT1, et la méthyltransférase de maintien, de maintenance. Et il y a aussi des méthyltransférases de novo, DNMT3A et B, et le cofacteur aussi 3L. En tout cas, la découverte des DNMT a a permis d'expliquer comment cette réaction a lieu à partir de donc le molécule universel donateur de S-adenosyl L-methionine ou SAM. On peut produire donc rajouter cette méthyle au niveau de la cytidine qui permet donc un maintien héritable au cours des divisions. Alors, donc je vais juste avancer sur cette diapo et après je vais revenir sur celle qui était avant. Je pensais que je l'avais mis un peu plus tôt. Donc ici, je vous montre plus clairement comment, effectivement, maintenant que nous connaissons les enzymes responsables, l'ADN montré ici ainsi, qui n'a pas encore une méthylation ajoutée, ces enzymes de nouveau méthyltransférase vont arriver sur l'ADN. Alors comment exactement, c'est encore une question qui est ouverte. Nous ne savons pas quels sont les facteurs qui permettent le ciblage toujours des nouveaux méthyltransférases, mais il y a certains facteurs qui interagissent avec ces méthyltransférases et qui permettent justement le ciblage à certaines régions, mais pas à toutes. En tout cas, le rajout de méthylation sur les cytosines, dans le cas des mammifères, c'est toujours des CPG qui sont méthylés. La cytosine, des dinucléotides CPG qui sont méthylés. Chez les plantes, il s'agit de CPG et puis d'autres signatures aussi qui peuvent être méthylées. Mais ici, juste pour être simple, je vous montre la situation chez les mammifères et d'autres eucaryotes. Et donc, cette méthylation rajoutée, au moment de la réplication, comme je l'ai indiqué, comme ça a été proposé par Holliday et Riggs, est perdue sur le brin nouvellement synthétisé. Et donc, la méthyltransférase de maintien, DNMT1, elle est ciblée à cet ADN hémiméthylé. Donc, pendant quelques années, nous pensions que la DNMT1 elle-même reconnaissait l'état hémiméthylé, mais en fait, il est maintenant réalisé qu'il faut d'autres partenaires, comme cette protéine qui s'appelle NP95, qui reconnaît donc cet état hémiméthylé juste à la sortie de la fourche de réplication et qui permet donc de rajouter une méthyle en face de la méthylcytosine de l'ancien bras présent. Donc, il y a une propagation, comme vous voyez, de manière très fidèle d'un état modifié de l'ADN. Donc, cette propagation, nous savons maintenant, est importante parce que quand nous délétons, par exemple, le knockout, les souris mutantes pour cette enzyme ont été créées et c'est létal très tôt au cours du développement. Donc, clairement, cette activité est importante pour le développement. Et si je viens juste en arrière, il y avait aussi des expériences qui étaient faites à peu près quelques années plus tard et dans lesquelles ont participé Holliday et Riggs, tous les deux. Donc, avec le développement d'analogues comme la 5-azacitidine ou la 5-aza-2-dioxycitidine, qui finalement empêche le rajout d'une méthylation. Donc si on ajoute ces analogues dans la culture des cellules, on empêche en fait la méthylation de l'ADN. Donc finalement, ces drogues, ces analogues ont été extrêmement importants pour décortiquer le rôle éventuellement de la méthylation dans le maintien des états réprimé de certains gènes, surtout avec le chromosome X inactif, comme ça a été indiqué décrit dans ces papiers dans les années 80. Et je voulais quand même juste souligner que ces analogues, en fait, ont été utilisés très tôt, très rapidement, dans le traitement de cancer. Sans qu'on sache véritablement quel était l'effet qu'ils avaient. Mais avec la compréhension finalement de ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire inhiber la méthylation, la 5-azacitidine était le premier vrai épidrogue, donc un drogue qui peut changer un état épigénétique et qui a été utilisé en clinique et qui est toujours utilisé en clinique et qui a, pour certains types de leucémie, un succès. Donc, si je reviens maintenant à ces études. Avec ces, je dirais, 10-15 ans de compréhension de l'importance de la méthylation de l'ADN et du fait et du caractère héréditaire de certains changements d'activité génique, il y a eu donc une nouvelle définition d'épigénétique qui a été proposée. Ça a été proposé au départ dans un papier par Robin Holliday en 1987, dans lequel il a parlé des changements épigénétiques qui peuvent avoir un impact au cours du développement ou dans le cancer. Il a écrit beaucoup sur la possibilité que finalement le cancer pouvait être déclenché ou propagé via des changements épigénétiques. Toute cette littérature a été oubliée très vite au moment où finalement les premiers oncogènes ont été décrits et on a réalisé qu'il y avait de la génétique dans le cancer aussi. Mais si vous faites une recherche sur la littérature, vous allez voir que cet aspect épigénétique revient en force pour la compréhension des cellules transformées. En tout cas, voilà, c'était Robin Holliday au départ qui a proposé ce changement de notion pour impliquer l'héritabilité dans la définition de l'épigénétique. Et puis dans un livre très important dans le domaine, en 1996, donc où Art Riggs, Rob Martinson, que vous allez écouter tout à l'heure, et Rousseau ont proposé, ils ont collecté une série de chapitres qui décrivaient différents phénomènes qui pouvaient maintenant être mis sous ce chapeau d'épigénétique, sous cette nouvelle définition. Je voulais aussi dire que le mot épimutation a été proposé justement par Holliday en 87, comme tout ce qui est un changement dans un gène, dans son activité, qui n'est pas dû à un changement au niveau de sa séquence. Et évidemment, parce que c'était en lien avec cette nouvelle définition épigénétique, ce changement était un changement héritable. Donc, pour faire le parallèle avec la mutation qui donc touche à la séquence de l'ADN, on a l'épimutation qui peut avoir un effet aussi important, drastique, mais qui ne touche pas à la séquence de l'ADN, mais qui peut être héritable. Et comme je le disais, dans ce livre, et puis je me souviens très bien, à un meeting où j'étais au début des années 90, c'était le moment où finalement tous ces phénomènes comme l'inactivation du chromosome X, ici vous voyez un chat calico, la variation, le PEV, variation de position chez la drosophile, chez la mouche drosophile dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui mais une autre fois, le maïs, les études de Barbara McClintock avec les changements de phase et les éléments contrôleurs, aussi plusieurs phénomènes chez les plantes et aussi chez la souris, des études qui montraient des changements transgénérationnels. Tout d'un coup, ils ont trouvé, je dirais, leur niche et les gens étaient très contents d'enfin pouvoir se dire, ben voilà, on travaille sur l'épigénétique, c'est tous ces phénomènes qui sont finalement stables, héritables, mais qui ne sont pas dus à des changements au niveau de la séquence de l'ADN. Donc, on partait un peu de cette notion de développement de Waddington. Waddington, il a émis ce mot épigénétique pour expliquer le développement et le lien avec le génotype. Dans la nouvelle définition, on ne parlait pas forcément de développement. Ça pouvait inclure le développement, mais on pouvait aussi toucher à des phénomènes qui étaient tout à fait, je dirais, présents chez l'adulte. Et il y avait la notion que cette transmission héritable pouvait être au cours des mitoses, au cours des divisions cellulaires, pour expliquer par exemple ce qu'on avait vu dans les cultures des cellules, ou l'inactivation du X, mais aussi à travers des générations. Donc à ce moment-là, effectivement, ça a suscité pas mal d'excitation parce qu'il y avait des données, par exemple chez la souris et beaucoup chez les plantes, qui suggéraient qu'il y avait des changements héritables à travers des générations qui n'étaient pas dues à des changements, des véritables mutations. Et donc, juste pour vous illustrer ce que je viens de dire ici, dans le contexte de la nouvelle définition d'épigénétique, au niveau des cellules mitotiques, un changement qui a lieu dans une cellule, par exemple, déclenché par un stress ou par un rajout chimique ou par un changement de milieu, un changement qui a lieu, qui est transitoire et qui, à la suite d'une division cellulaire, est effacé, ne pouvait pas constituer un changement épigénétique. Il fallait que ça soit héritable. Il fallait qu'un changement induit pouvait ensuite être propagé de manière stable, comme pour l'inactivation du chromosome X ou comme pour l'expression de certains gènes ou l'extinction de certains gènes au cours du développement ou dans la différenciation et qui ne revenaient pas en arrière. Donc, il s'agissait bien de changements héritables, mais qui pouvaient quand même, et c'est très important dans la notion d'épigénétique aussi, on pouvait quand même revenir en arrière. Il pouvait avoir une réversion. Donc, comme pour le processus d'inactivation du X, à chaque cycle de vie, le X inactif est réactivé dans la lignée germinale. Dans un contexte de cellules en culture, on peut aussi, maintenant, on le sait, les reprogrammer en rajoutant quatre facteurs, les fameux facteurs Yamanaka. Ou on peut changer leur état en rajoutant des épidrogues. Ou, de manière spontanée, l'état épigénétique peut être perdu. Et ça, c'est une des choses qui caractérise les phénomènes épigénétiques et qui les distingue des phénomènes génétiques mutationnels, c'est qu'effectivement, on peut revenir en arrière. C'est moins stable que... Un changement au niveau de la séquence de l'ADN. Et au niveau de la méiose, au niveau des générations, d'une génération à l'autre, il y avait, comme je l'ai dit, que ce soit chez les souris ou chez les plantes ou d'autres organismes, vous allez voir, déjà plusieurs indications qu'on pouvait avoir un état d'activité génique qui pouvait être transmis d'une génération à l'autre. Alors, chez les mammifères, c'est beaucoup moins clair à quel point ces changements peuvent être stables sur plusieurs générations. Mais en tout cas, chez les plantes, et puis même chez la drosophile et C. elegans, le ver, on sait maintenant qu'on peut avoir des changements relativement stables. Donc l'idée, c'est qu'un changement dans l'expression génique qui peut être soit, encore une fois, un événement sporadique, ou dû à une erreur, par exemple, de réplication où la chromatine n'est pas remise en place comme il faut, ou dû à un changement environnemental ou de nutrition, tous ces changements pourraient éventuellement être transmis d'une génération à l'autre. Alors, chez le mammifère, c'est très rare, on pense, que ça se passe, parce qu'à chaque lignée, à chaque cycle de vie, dans la lignée germinale, les changements épigénétiques sont effacés et remis en place correctement. Chez les plantes, ce n'est pas le cas. Mais on commence à réaliser, et on l'avait déjà vu, qu'il y avait quand même certains cas où on avait ce type de phénomène ou un changement. Et ici, je vous montre le cas. En fait, je peux aller en avant parce que je pense que j'ai des exemples qui viennent. Donc, pour le cas de l'inactivation du X et le cas de l'empreinte génomique sur lequel vous allez avoir deux cours et séminaires dans les prochaines semaines. Ici, il s'agit bien de changements mitotiques. Dans le cas d'inactivation du X, je pense que je vous ai déjà décrit qu'effectivement, un allèle, un chromosome est actif et l'autre est inactif. Un choix est fait au cours du développement et ensuite, ce choix est propagé de façon stable, en partie par la méthylation de l'ADN sous le X inactif au niveau des promoteurs de gènes. Pour l'empreinte parentale, c'est un phénomène assez particulier, mais qui a lieu chez les mammifères, mais aussi chez les plantes. On sait que certains gènes, certains locus provenant de la mère ou du père sont différents marqués. Encore une fois, on pense que la méthylation de l'ADN est extrêmement importante. Et cet marquage différentiel dans la lignée germinale, qui est mis en place dans la lignée germinale, mais qui est effacé à chaque cycle de vie, prochaine. Donc, marquage différentiel qui vient du père ou de la mère est important pour l'expression à partir d'un seul allèle de certains gènes. Et on sait que cette expression monoallélique, comme l'inactivation du X, cette expression monoallélique mais parent spécifique est très importante parce que quand on perturbe ce processus, on a des défauts importants de développement et des phénotypes importants. Donc voilà deux cas d'épigénétique que j'appellerais mitotique. Et puis, il y a les cas méiotiques, donc transgénérationnels, comme le cas de agouti, qui est un locus chez la souris, qui donne lieu à un pelage plus jeune, jaune, et aussi une certaine obésité. Et il s'avère que le gène agouti peut être plus ou moins exprimé et que cette expression ou l'absence d'expression peut être transmise de façon stable au cours des générations. Et en fait, il s'agit d'un élément transposable qui s'est rajouté à côté du gène agouti et qui va influencer son expression. Et c'est cet élément transposable qui, en fait, subit une méthylation de l'ADN qui peut être propagée de façon stable, qui n'est pas effacée à chaque génération comme il faut, comme le reste du génome semble être effacé, enfin, les modifications épigénétiques semblent être effacées. Dans le cas d'agouti et peut-être d'autres locus, ça c'est quelque chose qui est en cours de découverte, on garde cette situation. Mais comme vous voyez, on voit dans les progénies d'une mère qui a une expression, une extinction d'agouti, toute une panoplie de phénotypes plus ou moins pénétrants. Et ça, c'est, comme je le disais, tout à fait caractéristique de l'épigénétique. C'est jamais, ou c'est rarement, 100% fiable, en tout cas chez les mammifères, au cours des générations. Et puis, je termine sur deux autres illustrations de changements épigénétiques chez les plantes, sur la forme des fleurs et même sur la couleur des tomates. Là, ça a été clairement montré que ces changements extrêmement frappants phénotypiques, qui sont très stables au cours des générations, sont purement dus à des changements de méthylation des promoteurs de certains gènes, qui sont toujours associés à des éléments transposables. Donc là, les éléments transposables de McClintock, en fait, jouent un rôle clé, il semblerait, dans la capacité de certains gènes d'être exprimés ou pas exprimés au cours des générations et que cette expression qui est due à l'épigénétique puisse être stable. Donc là, je voulais parler un tout petit peu maintenant de ce que nous savons avec cette nouvelle définition de l'épigénétique. Qu'est-ce que nous savons par rapport aux bases moléculaires ? Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de données sur la méthylation de l'ADN que sur d'autres marques épigénétiques. Mais, ceci dit, on a encore beaucoup de questions, vous allez voir. Donc, déjà, une des questions qu'on peut poser, c'est où se trouve la méthylation, cette fameuse méthylation qui semble être importante pour l'activité des gènes ? Où est-ce que cette méthylation se trouve ? Et ici, je vous illustre différentes situations. Donc ici, je vous montre des gènes qui sont associés à des régions qui sont plus ou moins riches en CPG, qui sont méthylées ou pas, et l'impact que cette méthylation peut avoir sur l'expression des gènes. Donc en fait, un des exemples, c'est par exemple les gènes sur le chromosome X inactif, qui sont toujours méthylés et inactifs. Et cette méthylation de l'ADN est associée à une répression génique. Mais en fonction de la densité de la méthylation, de la densité des CPG et de la méthylation, on peut avoir plus ou moins de répression. Comme vous voyez ici, quand il y a très peu de CPG et très peu de méthylation, on peut avoir une expression quasiment aussi forte à partir du gène méthylé que le gène non méthylé. L'autre situation, et donc ça c'est dans le génome, on sait qu'environ 80% de nos séquences CPG sont méthylées, plus ou moins, et que cette méthylation peut donc avoir une influence sur l'expression des gènes. Comment ? Je vais revenir sur ça dans un instant. Une situation qui peut être beaucoup plus claire, c'est la situation des gènes soumis à l'empreinte. Donc là, comme je l'ai dit, vous allez avoir un cours et un séminaire sur ce phénomène-là, où il a été très bien décrit qu'il y a des séquences très spécifiques qu'on appelle des DMR, pour Differentiated Methylated Regions, qui sont méthylées soit sur l'allèle paternel, soit sur l'allèle maternel. Et c'est la plupart du temps dans l'allèle maternelle. Et cette méthylation est extrêmement importante pour l'expression non seulement du gène à côté, mais de tout un locus souvent. Donc exactement comment ces régions agissent, c'est encore pas tout à fait clair, mais nous savons que c'est cette méthylation différentielle qui est absolument cruciale pour la manière que les gènes peuvent s'exprimer de manière parent spécifique, origine de parents spécifiques. Ici aussi, je vous montre des séquences qui ne sont pas forcément... les séquences à l'intérieur d'un gène peuvent être méthylées et ça n'a aucun impact ou pas forcément un impact sur l'expression de gènes. Donc la présence de la méthylation dans une région en 5' d'un gène, dans la région promotrice, semble importante pour sa régulation, tandis que la présence de la méthylation au sein du gène, là où la machinerie de transcription doit traverser, ne semble pas être problématique. Donc ça pose la question de exactement qu'est-ce qui reconnaît cet ADN méthylé, ces séquences CPG méthylées, et quel est leur rôle. Et nous savons que le rôle doit être important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la délétion des enzymes qui sont responsables de la mise en place de cette modification ou de le maintien donne des phénotypes très importants, une létalité embryonnaire. Donc une dernière partie du génome qui est très méthylée, et il y a des gens qui pensent que peut-être la méthylation, en tout cas chez certains eucaryotes, a évolué justement pour gérer ces séquences, c'est les éléments transposables. Ces fameux éléments contrôleurs ou les éléments répétés qui peuvent, dans certains cas, bouger, sont très dangereux pour le génome qui les supporte, parce que s'il se met à être actif et à bouger de manière incontrôlée, ça peut avoir des effets mutagéniques catastrophiques dans l'individu et surtout dans la lignée germinale. Donc on sait que la méthylation d'ADN de ces éléments semble être très importante pour bien les contrôler. Et ça aussi, vous allez avoir en fait un séminaire sur cet aspect-là au moment du colloque que j'organise avec Jean-Louis Mondel en mois de mai. Donc voilà, la méthylation se retrouve à différents endroits du génome et le rôle reste vraiment à comprendre de manière entière. On sait que la méthylation peut empêcher l'association de certains facteurs, comme par exemple la machinerie de transcription dans la région 5' d'un gène, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche pas de traverser un gène. Donc ce n'est pas la présence de la méthylation en soi qui empêche la machinerie de s'associer. Il y a d'autres facteurs, comme le facteur CTCF, dont je ne vais pas parler en détail aujourd'hui, mais qui est très important pour la régulation de certains gènes, l'organisation aussi du génome en 3 dimensions, et qui est aussi très important pour les gènes soumis à l'empreinte. Et on sait que la méthylation de l'ADN peut avoir une influence négative sur la liaison de CTCF et donc peut être à la base, en partie, de l'explication du traitement différentiel des deux allèles qui sont soumis à l'empreinte. On peut aussi, et on le sait, voir que la méthylation recrute certains facteurs. Donc les methyl binding domain proteins, que je vais vous montrer dans un instant, et aussi des complexes entiers avec des répresseurs qui peuvent expliquer donc le rôle éventuel de la méthylation comme un répresseur. Donc ici, je vous montre juste un exemple des études de plusieurs labos, Adrian Bird et puis plusieurs autres labos, ont essayé de chercher les protéines qui s'associent à l'ADN méthylé spécifiquement et pas à l'ADN non méthylé. Donc il y a plusieurs protéines MBD qui s'associent et je vous montre juste 3 ici. MSCP2, c'est une des protéines les plus importantes et intéressantes étudiées aujourd'hui, parce que nous savons que cette protéine-là est essentielle pour la vie, parce qu'elle donne, en absence d'MSCP2, on a une létalité chez les mâles. Donc MSCP2 est un gène qui est lié au chromosome X. Donc les mâles qui portent une mutation dans MSCP2 ne survivent pas, leur moyen meurt. Et les filles qui sont porteuses de mutation MSCP2 sur un des deux chromosomes X ont le syndrome de Rett. Donc nous savons qu'effectivement MSCP2 est extrêmement important dans le cerveau pour le développement neuronal, mais on ne sait pas exactement le rôle qui est joué. Je vais revenir sur ça dans un instant, mais en tout cas, clairement, les protéines qui s'associent à la méthylation de l'ADN jouent des rôles importants. Voilà. Donc une dernière diapo pour vous montrer un peu où nous en sommes. Donc, elle est très dense, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout. Ici, je vous montre simplement le cycle de vie de la souris. avec les études extrêmement minutieuses qui ont été faites par plusieurs labos depuis le temps pour regarder le niveau de méthylation du génome au cours du développement et sa dynamique. Et comme vous voyez, la méthylation de l'ADN est extrêmement dynamique. Donc on voit que juste après la fécondation, les taux de méthylation qui provenant du père, dont le génome paternel, tombent de manière dramatique. On pense que c'est une perte active de méthylation. Donc il faut dire que jusqu'il y a quelques années, on pensait qu'il n'y avait pas moyen en fait, d'enlever la méthylation d'ADN. Maintenant, il est évident que si, mais en le transformant en autre chose, et je vais revenir sur ça dans un instant. Chez la femelle, il y a aussi une perte de méthylation globale au cours des premiers stades du développement. Mais dans ce cas-là, nous pensons que c'est plutôt une perte passive, avec la réplication, mais sans une activité de maintenance, de la méthyltransférase de maintenance qui puisse permettre le maintien. Les seules régions qui semblent garder leur statut méthylé sont justement, par exemple, les régions soumises à l'empreinte, qui, eux, sont protégées de cet effacement de méthylation assez global. Ensuite, on voit que la méthylation commence à reprendre dans l'embryon juste après l'implantation. Et ensuite, il y a des dynamiques qui sont différentes en fonction des tissus, mais en particulier dans la lignée germinale, dans le gonade, nous savons qu'il y a une perte de méthylation qui accompagne l'effacement, la reprogrammation dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, on efface tout ce qui est marque d'expression d'activité génique tissu spécifique. On fait un effacement aussi des empreintes pour ensuite les remettre en place. Hein, et on efface aussi, par exemple, l'état méthylé et inactif du chromosome X. Donc, dans la lignée germinale femelle, le X est réactivé et ceci est accompagné par une perte de méthylation des promoteurs sur le chromosome X. Et alors, à quel point cette perte est active ou inactive, là aussi, c'est aujourd'hui, on n'est pas certain de la contribution active de déméthylation et la contribution passive de perte de méthylation, mais il est clair qu'il y a une perte active qui est très importante. Mais l'importance de cette perte de méthylation sur l'expression des gènes par rapport à d'autres événements qui changent aussi, sur lesquels je vais revenir, n'est pas encore tout à fait clair. Vu qu'on ne sait pas vraiment ce que fait la méthylation, déjà là où on le voit, comme je l'ai dit, dans le génome, dans une cellule somatique, c'est difficile de vraiment conclure ce que fait ces marques quand c'est effacé. Mais en tout cas, les études sont extrêmement intéressantes, focalisées sur cette dynamique dans la lignée germinale actuellement. Et donc ici, je voulais quand même juste mentionner le cas des facteurs de pluripotence que j'ai mentionné tout à l'heure. Parce que ici, pour ces facteurs de pluripotence, qui sont très importants justement pour garder l'état pluripotent, par exemple, dans une cellule souche, mais qui sont aussi importants, évidemment, au cours de l'embryogenèse et peut-être aussi dans la lignée germinale, nous savons que ces facteurs doivent être éteints au cours de la différenciation, sinon la différenciation ne peut pas avoir lieu. Et comment ça se passe? Et maintenant, on commence à avoir un peu plus d'informations sur la suite des événements. Et il semble qu'effectivement, l'extinction transcriptionnelle des gènes qui sont impliqués, l'extinction transcriptionnelle des facteurs de pluripotence, qui sont elles-mêmes régulés, il y a des feedbacks entre ces facteurs et elles-mêmes, mais le premier événement ne semble pas être dû à la méthylation. On pense qu'effectivement, les facteurs qui sont responsables de leur expression sont perdus d'abord. On voit qu'effectivement, la région au niveau de les régions promotrices semblent changement au niveau de leur état chromatinien et que finalement la méthylation qui est rajoutée est un événement plus tardif. Et c'est aussi le cas pour, par exemple, l'inactivation du X et pour d'autres phénomènes. On pense que la plupart des temps, en tout cas, chez les mammifères, ce rajout chimique qui a fait ce changement dans la définition de l'épigénétique, ce changement n'est pas, n'est pas finalement... comment dire ça ? La méthylation n'est pas le déclencheur du changement, c'est simplement la marque qui va permettre l'héritabilité de ce changement. Donc la méthylation est recrutée, encore une fois, on ne sait pas exactement comment, mais au niveau des promoteurs des gènes, et cet état donc éteint et ensuite figé grâce à la méthylation, et n'est pas... ces gènes ne sont pas réexprimés que si la méthylation est aussi effacée, soit dans la lignée germinale ou soit dans des contextes particuliers au cours de l'embryogenèse. Alors, comment on peut enlever la méthylation ? Comme je le disais, jusqu'à récemment, on ne pensait pas que c'était possible de perdre la méthylation. On avait les de novo méthyltransférases, on avait les méthyltransférases de maintien, et l'idée, c'était que pour perdre la méthylation, il fallait tout simplement arrêter l'expression ou sortir du noyau, par exemple, la DNMT1, qui est la méthyltransférase de maintien. Et du coup, au cours des divisions cellulaires, à chaque réplication, l'ADN hémiméthylé allait devenir encore moins méthylé, et du coup, une perte progressive avec les divisions cellulaires. Mais là, depuis quelques années, il y a une explosion dans la littérature qui montre qu'il y a une série d'enzymes TET qui sont, impliquées dans la transformation de la 5-méthylcytosine en d'autres dérivés par une série de réactions oxydatives. On peut passer de la 5-méthylcytosine à la 5-hydroxyméthylcytosine, à la 5-fomylcytosine et à la 5-carboxycytosine. Et ces formes-là peuvent ensuite être éliminées définitivement par un processus de réparation, base excision repair, ou peuvent rester. Et c'est ça la grande question, parce qu'en fait, il a été réalisé que ces changements qui peuvent avoir lieu de manière très dynamique n'ont pas été compris ou réalisés parce que justement les techniques qui existaient pour détecter la 5-méthylcytosine, ou la plupart des techniques, ne pouvaient pas distinguer entre cette modification-là et les autres. Mais certaines le pouvaient. Donc il y avait des anticorps, par exemple, contre la 5-méthylcytosine qui ne pouvaient pas détecter la 5-hydroxyméthylcytosine. Et donc, quand je vous avais dit tout à l'heure que le génome paternel au cours de l'embryogenèse perd tout de suite ou très rapidement de manière active sa méthylation, en fait, il ne le perd pas. C'est une transformation de 5-méthylcytosine en 5-hydroxyméthylcytosine qui n'a pas été détectée par l'anticorps en question, mais maintenant, nous savons qu'il y a cette transformation. Donc, à la limite, ça nous donne une vision de comment on peut se débarrasser d'un groupe méthyle en faisant cette série de réactions. Mais peut-être le point, je pense, qui est encore plus intéressant, c'est que finalement, ces nouvelles formes de méthylation sont toutes des potentielles nouvelles modifications épigénétiques qui peuvent jouer des rôles. Et là, j'ai pris juste deux, trois papiers qui sont sortis dans les derniers mois pour vous montrer à quel point... il y a une explosion dans la littérature. Et ces fameuses protéines MSCP2 dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui est si important dans le syndrome de Rett, a été montrée non seulement comme un partenaire de la 5-méthylcytosine, c'était comme ça qu'elle a été identifiée au départ, biochimiquement, mais elle peut aussi associer à la 5-hydroxyméthylcytosine. Et en fait, il a été publié récemment dans Cell qu'effectivement, cette association avec la 5-hydroxyméthylcytosine pourrait être importante pour l'activité des gènes neuronales et que dans certains cas, certains patients qui ont le syndrome de Rett, la mutation dans la protéine MSCP2 a un rôle dans, un impact sur sa capacité de se lier à la 5-hydroxyméthylcytosine, suggérant qu'effectivement, dans le cerveau, qui est finalement l'organe dans lequel MSCP2 semble être le plus important, c'est peut-être pas la 5-méthylcytosine, mais la 5-hydroxyméthylcytosine qui est le vrai cible ou le vrai point de reconnaissance. Donc ici, je vous montre aussi d'autres papiers qui sont sortis qui montrent que quand on délète ou on empêche ces enzymes, les enzymes TET qui font cette série de réactions oxydatives, on commence à voir des phénotypes. Donc les données commencent à sortir chez le xénope, mais aussi chez la souris. On sait qu'effectivement, l'absence de ces protéines peut avoir des effets développementaux très importants. Pour montrer, mais ici, dans ce cas-là, nous ne savons pas si c'est en fait l'absence de la 5-hydroxyméthyle et ses dérivés qui est important, ou simplement l'incapacité de déméthyler la 5-méthylcétosine. Ça reste à voir. Mais en tout cas, clairement, ces processus semblent être importants aussi pour le développement. Et il y a des liens extrêmement importants avec le cancer. D'ailleurs, dès le départ, la découverte des premières têtes, il a été montré que, par exemple, l'absence de tête 2 a un impact très important dans la transformation myéloïde dans certains types de leucémies. Dans les leucémies, maintenant, les traitements pour justement attaquer la déficience de tête 2 sont en cours de test. Donc, nous savons qu'effectivement, ces protéines jouent des rôles clés au cours du développement et aussi dans des pathologies comme le cancer. Donc, voilà la méthylation de l'ADN qui a permis ce bascule de la définition de l'épigénétique à la définition avec laquelle, je pense, la plupart des scientifiques en biologie sont le plus à l'aise. Donc, cette notion de changement héritable, mais qui ne touche pas à la séquence de l'ADN. Mais la méthylation de l'ADN, finalement, ne semble pas être aussi universelle que ça. C'est clair que chez les mammifères et les plantes et d'autres organismes aussi, il est important pour maintenir la mémoire des cellules et même, dans certains cas, une mémoire au cours des générations. Il est important parce que, comme je l'ai dit, quand on perturbe les enzymes qui le mettent en place ou qui le lisent ou qui le maintiennent, on voit des phénotypes très importants. Mais il est absent de plusieurs organismes et d'autres systèmes, donc comme la drosophile ou C. elegans. Il n'y a pas de méthylation de l'ADN. Et pourtant, clairement, il y a de l'épigénétique dans le sens héritable, clairement présent dans ces organismes. Donc ici, je voulais juste vous faire un petit résumé de comment on peut imaginer l'épigénétique dans sa nouvelle définition. Donc, c'est un mot qui suscite beaucoup de débats, même entre nous, les scientifiques. On peut passer des heures à se disputer sur ce qui est vraiment épigénétique ou pas. Et ici, je vous montre, par exemple, la possibilité que, finalement, nous n'avons pas besoin forcément d'avoir un changement en cis, c'est-à-dire au niveau du chromosome, pas un marque comme la méthylation d'ADN qui doit être propagée. Tout ça peut être, en fait, simplement... dû à des boucles de rétroaction, feedback loops, où finalement, et là c'est le cas le plus simple que je vous montre ici, un gène produit une protéine qui la protéine va avoir un effet positif sur l'expression du gène, et à partir du moment qu'on établit ce boucle, on peut la maintenir et qu'à chaque division cellulaire, le gène peut continuer à exprimer la protéine qui va l'activer, qui va, etc. Et donc, ici, on peut parler d'épigénétique, des signaux épigénétiques en trans. Pourquoi pas? Et clairement, ça existe. Et même, on pense qu'au cours du développement précoce, en tout cas chez la souris, c'est peut-être comme ça que les choses se mettent en place au départ. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de situations où ça ne semblerait pas être aussi facilement expliqué, comme par exemple l'inactivation du X et l'empreinte, où clairement, il y a des changements qui sont en cis qui sont importants, parce que si on les enlève, on voit une perturbation. Mais on ne peut pas exclure, effectivement, que ce type de boucle peut être considéré comme étant épigénétique. Je dirais que c'est peut-être moins commun chez les eucaryotes que chez les prokaryotes, mais ça peut exister. Mais alors, il y a certains scientifiques qui viennent plus du monde des prokaryotes, comme Marc Petachnet, qui est convaincu qu'en fait, l'épigénétique, c'est ça. On n'a vraiment pas besoin d'évoquer autre chose, sauf pour l'inactivation du X et l'empreinte, que tout le reste peut être expliqué par ça. Par exemple, les facteurs de transcription qui sont présents et qui font des loops parfois plus compliquées que ça, mais que tout ça peut être complètement en trans. Et donc, la notion, je dirais, qui est plus classique parce qu'il y a eu ces études sur la méthylation d'ADN, mais qui finalement semble mieux tenir la route parce que dans un contexte de chromatine chez les eucaryotes, il faut quand même maintenir un état ouvert de chromatine si on est actif et fermé au niveau de la chromatine si on est inactif. Donc, clairement, il y a un besoin des signaux en cis. Et donc là, c'est le cas que je vous avais décrit pour la méthylation, où effectivement, il y a une marque qui est mise en place, que ce soit la méthylation d'ADN ou autre, et qui fait qu'effectivement, il y a une extinction ou une activation transcriptionnelle. Et cette marque, elle est propagée à chaque division cellulaire. Donc, il faut avoir un mécanisme pour la propager. Pour la méthylation de l'ADN, on a compris. On sait presque tout. Pas tout à fait, mais on comprend bien. Mais vous allez voir, pour le reste, c'est moins évident. Mais ça commence à venir. Donc, quels sont les autres mécanismes épigénétiques qu'on peut évoquer? Alors ici, je vais vous faire un parcours très, je dirais, superficiel, parce que chacune de ces phrases pourrait être un cours de 3 heures en soi. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est justement de faire cette tour un peu des différents mécanismes. Et ensuite, avec les différents systèmes comme l'inactivation du X ou l'empreinte, on va pouvoir regarder de manière plus détaillée exactement qu'est-ce qui est en jeu pour chacun des systèmes qui finalement piochent différentes parties, différents types de mécanismes épigénétiques. Donc, il y a la chromatine. Je vous avais déjà parlé de la chromatine. Je vais revenir surtout sur cet aspect-là. La chromatine, en fait, c'est donc le génome qui est entouré autour des protéines, qui sont les histones, en forme de nucléosome. On sait que c'est très important pour que le génome puisse rentrer dans les noyaux, mais on sait aussi que c'est extrêmement important comme porteur d'informations potentiellement épigénétiques. La méthylation d'ADN peut être considérée comme étant une marque chromatinienne, mais il y en a d'autres sur lesquelles je vais venir dans un instant. Et on peut aussi considérer que certains facteurs de transcription, malgré ce que j'ai dit pour les facteurs trans, il y a des facteurs de transcription qui restent associés. On les appelle les bookmarking factors maintenant. Il y a quelques exemples. C'est des facteurs de transcription qui s'associent et qui ne se dissocient pas au cours de la mitose et au cours du cycle cellulaire. C'est un nouveau concept presque, mais en tout cas, il y a des données qui suggèrent que ça existe. Donc, au niveau de la chromatine, voilà, il y a aussi tout un monde qui s'ouvre, qui est les ARN non codants. Et donc, je vous avais parlé tout à l'heure des ARN qui donc produisent des protéines, mais on réalise qu'il y a une grande partie de notre génome qui est transcrit et qui produit de l'ARN, et n'est pas forcément pour produire de la protéine. Alors, certains de ces ARN non codants sont importants, et vous allez voir dans le cours sur l'inactivation du X que le déclencheur de tout ce processus est justement un ARN non codant qui s'appelle EXISTE. Et pour les gènes soumis à l'empreinte aussi, il y a des ARN non codants qui sont très importants pour déclencher l'expression monoallélique. Il y a aussi d'autres transcrits non codants pour lesquels il y a beaucoup de spéculations, pas forcément toujours beaucoup de données. Il y a aussi de la transcription intergénique qui pourrait jouer un rôle, soit parce que c'est l'ARN qui joue un rôle, soit juste l'acte de transcription qui joue un rôle. Et il y a tout un monde des petits ARN sur lequel je ne vais pas élaborer parce que vous allez avoir le séminaire de Rob Martinson tout à l'heure, très bientôt même. Et juste pour terminer cet aspect-là, je vais vous parler moins de l'organisation nucléaire, mais je vais quand même toucher à ça pendant mon cours sur l'inactivation du X. On sait de plus en plus que le noyau n'est pas un sac homogène de facteurs dans lequel flottent les chromosomes de manière, passive. On sait que c'est quand même une organelle extrêmement organisée avec des structures physiquement robustes comme la lamine, le lamina, l'enveloppe nucléaire, mais aussi avec des structures ou des compartiments biochimiques qui sont extrêmement différents. Et nous pensons, dans le domaine de l'épigénétique, un rôle est quand même donné de plus en plus important éventuellement pour le maintien d'un état d'activité ou d'inactivité. La position du noyau peut avoir un impact sur l'expression ou non d'un gène. Et aussi l'organisation des chromosomes, leur topologie en 3 dimensions, malgré la manière qu'on les écrit, ce n'est pas des lignes, ce n'est pas des chromosomes en mitose ou en métaphase qu'on a dans le noyau, c'est des structures en 3 dimensions en forme de, sorte de pelote qui peuvent en fait être beaucoup plus structurées qu'on imaginait, et cette organisation peut être importante pour la manière que le génome est lu ou pas. Et puis, il y a aussi tout un monde d'épigénétique auquel je ne vais pas entrer cette année, mais que je compte traiter dans les années qui viennent, qui sont aussi les composants cytoplasmiques. On peut considérer, si on prend la définition de l'épigénétique comme un changement héritable sans changement au niveau de la séquence de l'ADN, qu'effectivement, ça peut être aussi cytoplasmique ou même structurel, quelque chose qui est mémorisé au cours des divisions cellulaires. Et il y a des cas, les prions peuvent être considérés, les protéines qui vont aller changer la structure d'une autre protéine, si un changement ensuite est propagé, on peut considérer que c'est de l'épigénétique. Et pareil, il y a des structures au niveau des surfaces des cellules qui semblent être gardées. On ne comprend pas exactement comment, mais qui semble être gardé de façon stable au cours des divisions cellulaires, comme les ciliés. Voilà. Donc je vais passer quand même quelques minutes sur la chromatine, parce que c'est quand même, je pense, le monde de l'épigénétique le plus connu. Alors, quand on parle de chromatine, pour moi en tout cas, nous ne parlons pas de l'épigénétique. La chromatine, c'est la structure qui permet qu'effectivement, le génome soit empaqueté dans le noyau. La chromatine peut permettre l'expression ou la répression de certains gènes. La chromatine peut changer dans différentes situations, mais pas forcément de façon héritable, due à cette différence avec la notion d'épigénétique. En tout cas, nous savons que, comme je l'ai dit, l'ADN est entouré des nucléosomes, donc enfin l'ADN en forme de nucléosome avec des protéines, donc l'ADN est entouré autour d'un octamère des histones. Cet ADN peut être modifié par la méthylation, comme je l'ai décrit tout à l'heure, mais ces histones et ces nucléosomes peuvent eux-mêmes être porteurs d'informations importantes. Et donc on a réalisé depuis quelques années qu'effectivement les histones peuvent soit venir en forme différente, des variants différents d'histones existent et qui peuvent avoir des rôles extrêmement importants pour définir différentes catégories du génome, et aussi les histones elles-mêmes peuvent être modifiées, comme l'ADN peut être méthylé, les histones aussi peuvent être méthylées et peuvent être aussi modifiées par d'autres modifications comme l'acétylation, la phosphorylation, l'ubiquitination. Donc il y a toute une panoplie de modifications des histones qui semblent exister. Et alors, nous savons maintenant que ces modifications des histones, donc ici je vous montre en fait le nucléosome, et ici c'est les queues N-terminales de chaque histone, H3, H4, H2A, H2B, et donc l'autre d'H4. Et donc ces modifications qui peuvent apparaître sont exposées à l'extérieur, on pense, du nucléosome, et peuvent être utilisées comme information. Donc on sait que d'une part, ces modifications peuvent être utilisées comme information de compaction. Donc en fait, la chromatine peut être plus ou moins compactée en fonction de son niveau d'acétylation des histones. Mais aussi, certaines modifications ne semblent pas avoir un impact sur la compaction, mais peuvent être un site de reconnaissance de certaines protéines. Et donc, il y a plus que 10 ans maintenant, il a été mis, pour faire le parallèle avec le code génétique, peut-être un code d'histone, que des modifications des histones en combinaison pourraient être utilisées comme une sorte de signature pour la reconnaissance des protéines. Alors, je pense qu'on peut dire que ça reste toujours de la spéculation pure. Il y a finalement très peu de cas où on peut dire qu'effectivement, on peut vraiment prédire où une protéine va s'associer juste par une combinaison d'histones, de modifications d'histones, et qu'il faut cette combinaison pour que la protéine puisse s'ancrer. Mais en même temps, nous savons qu'il y a des protéines qui s'associent à ces modifications et de manière très efficace, et qui peuvent donc être ciblées à certaines régions du génome. Donc l'idée est que, d'une part, il y a quand même des facteurs de transcription avec une reconnaissance de la séquence de l'ADN extrêmement précise qui peuvent jouer un rôle, finalement, de recrutement d'autres facteurs qui vont, eux, faciliter un changement au niveau de la modification des histones, et que ces changements au niveau des histones peuvent ensuite jouer un rôle de recrutement. Donc, je ne sais pas si j'étais très cohérente là, mais pour essayer d'expliquer un peu plus, donc les modifications des histones peuvent être changées par des enzymes que nous avons maintenant en main. Les gens ont défini, en fait, au départ, surtout grâce encore à la génétique, les mutants chez la drosophile qui finalement montrent un changement au niveau de leur capacité de modifier des histones, mais d'autres protéines aussi. Donc, il y a des enzymes qui arrivent à rajouter ou enlever des modifications. Et on sait aussi qu'il y a des protéines qui vont s'associer à ces modifications et qui peuvent apporter avec elles les enzymes qui vont modifier. Donc on peut se retrouver avec une sorte de boucle d'autopropagation qui est très important pour ce que je vais vous dire dans un instant, parce qu'effectivement, on peut imaginer que une modification rajoutée peut affecter d'autres histones autour, soit en cis, soit pour la propagation de cette marque au cours de la réplication. Et donc, deux autres aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est l'ARN non codant. Donc, il y a des ARN non codants qui s'associent à la chromatine, comme l'ARN cis, que je vais vous décrire plus tard. Et puis, il y a des complexes qui sont, on sait maintenant, très importants pour les mécanismes épigénétiques, comme le complexe polycom et trithorax. Et donc là, je vais très rapidement vous illustrer de quoi je parle. En fait, j'en ai parlé aussi à ma leçon inaugurale. Donc, chez la drosophile, il est bien compris maintenant, grâce aux études de Vichaus et Nussleim-Volhardt et puis beaucoup d'autres, comment finalement les patrons d'expression des gènes sont établis grâce à des facteurs de transcription qui sont exprimés très tôt au cours de l'embryogenèse. Mais une fois que ces facteurs ont joué leur rôle et l'expression des gènes est mise en place, on sait que cette information doit être conservée jusqu'à l'adulte. Et comment ? Et donc, en fait, c'était la découverte de certaines mutations qui affectaient justement cette étape de maintien et qui pouvaient causer une transformation entre différents organes, comme vous voyez ici, chez la drosophile ou même chez la souris. On voit des malformations squelettiques dans les mutants polycom ou trithorax. On sait qu'effectivement, l'expression ectopique des gènes homéotiques, qui est due à cette absence de maintien correct de leur expression, est due à polycom et trithorax, qui sont des complexes protéiques qui jouent ce rôle de propagation. Donc ici, je fais juste un résumé de certains aspects de polycom et trithorax. On va revenir là-dessus, comme j'ai dit, avec les différents cas que je vais illustrer au cours des cours et des séminaires. Donc, que ça soit polycom. Donc, polycom, c'est des protéines en complexe qui ont un rôle répressif, un maintien de l'état répressif. Et donc, il a été montré chez la drosophile, mais aussi maintenant dans plusieurs systèmes, qu'effectivement, il faut PRC1 et PRC2, donc les deux complexes majeurs, il faut certains de ces complexes pour maintenir un état inactif, par exemple, comme pour l'inactivation du chromosome X. Trithorax, par contre, a un rôle plutôt d'expression, de maintien d'un état actif. Et dans tous ces cas, ces complexes sont associés à des modifications des histones. PRC2 dépose une marque qui s'appelle la triméthylation de la lysine 27 de l'histone H3. Et on pense que cette marque peut aussi jouer un rôle de cible pour l'autre complexe polycom, PRC1, qui, via une protéine CBX ou polycom, peut reconnaître cette modification et donc être recruté à certaines régions. Mais il y a d'autres manières aussi de recruter PRC1. Mais en tout cas, on pense qu'effectivement, ces deux complexes peuvent jouer un rôle ensemble pour propager des états inactifs de manière stable. Et dans le cas de trithorax, on sait que la modification clé est la H3K4 triméthyl, donc MLL est très important pour cette modification. Et on sait qu'effectivement, le maintien des états actifs et même le déclenchement des états d'expression sont très touchés quand il y a des modifications au niveau des complexes trithorax. Donc ces complexes sont beaucoup plus conservés que la méthylation de l'ADN. Donc on pense qu'effectivement, ces complexes jouent un rôle essentiel dans tout ce qui est organisme, enfin tout ce qui est multicellulaire. Ils sont aussi impliqués, comme je l'ai dit, dans l'inactivation du X, dans l'empreinte, chez les plantes aussi. Et dans les systèmes où il y a aussi la méthylation de l'ADN, clairement, il y a des liens positifs et négatifs avec ces modifications. Et il y a des liens avec les ARN non codants, que ce soit les ARN longs non codants ou les ARN petits non codants. Chez la drosophile, c'est clair qu'il y a un lien entre l'RNAi et polycom. Et donc là, maintenant que je vous avais décrit de manière très vaste, la chromatine est certain des acteurs. Comment on peut imaginer qu'on établit des marques chromatiniens? En fait, beaucoup de choses sont possibles. On sait que dans certains cas, c'est la séquence de l'ADN qui est importante pour cibler certains facteurs, et c'est ça qui va faire que un changement au niveau de la chromatine est mis en place. Ça peut aussi être avec des facteurs de transcription qu'une machinerie de modification de la chromatine est rajoutée. Ça peut être peut-être via des ARN non codants qui peuvent jouer un rôle de ciblage à certaines régions. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent évoqué. J'avoue qu'il n'y a pas souvent beaucoup de données qui démontrent ça de manière claire, mais c'est une manière d'imaginer le processus. Et puis, il y a aussi des façons, je dirais, secondaires de rajouter des marques de la chromatine, soit parce qu'effectivement, il y a de la méthylation de l'ADN qui fait que certains modificateurs de la chromatine vont être ciblés, ou encore une fois, via les ARN non codants. Et donc, la grande question aussi, c'est comment, une fois qu'on a mis ces marques en place, on peut les perpétuer, on peut les propager. Et donc, pareil, c'est le même type d'acteurs. On a des facteurs de transcription, les ARN non codants, la méthylation. Et comme je l'ai décrit, on peut avoir des sortes d'autopropagation parce que certains des modificateurs de cette chromatine peuvent être recrutés par leur modification et rajouter d'autres. On peut aussi avoir des interactions en trois dimensions à longue distance qui font ramener un complexe à une région. Et il y a le lien avec l'RNAi. Donc là aussi, je suis désolée, je vais très vite là, mais en fait, c'est parce que, comme je l'ai dit, pour chacun de ces aspects, on pourrait passer pas mal de temps. C'est juste pour vous lister un peu les possibilités, et comme ça, au séminaire que vous allez entendre, vous allez avoir un peu plus d'informations, par exemple au niveau de l'RNAi et la méthylation de l'ADN. Et un point important, c'est la propagation des marques chromatiniens au cours de la réplication. Donc, comme je vous avais expliqué, pour la méthylation de l'ADN, la situation est simple parce qu'on a compris un peu que l'état hémiméthylé est reconnu. Pour les histones, c'est beaucoup moins simple. On pense que la fourche de réplication, là où effectivement des nouveaux nucléosomes doivent être formés, il y a une distribution aléatoire des histones anciens qui étaient présents avant. Il y en a même qui sont perdus. Donc, comment garder cette information épigénétique si c'est au niveau des modifications des histones, par exemple? Là, ce n'est vraiment pas évident. On pense que peut-être il y a un rôle de certains facteurs qui, comme pour la méthylation de l'ADN, que je vous avais décrit tout à l'heure, les facteurs modificateurs sont ciblés justement la fourche de réplication. Donc ici, il y a plusieurs enzymes que je vous montre qui sont importantes pour les modifications de la chromatine, des histones. Et on pense qu'effectivement, ces protéines pourraient s'associer au moment de la réplication justement pour redéposer la marque là où la marque était. La question, c'est comment ces facteurs vont s'associer à la fourche de réplication et savoir où il faut déposer la marque. Donc ça, c'est, je dirais, le cœur du sujet. Il y a des papiers qui suggèrent que Polycom et Trithorax, tous les deux, peuvent jouer ce rôle. Je pense qu'il faut rester encore prudent. Il y a beaucoup d'analyses et des techniques qui doivent être utilisées pour vraiment attaquer la manière que ce type de complexe est recruté et la manière qu'il va rajouter le marque qu'il faut à l'endroit qu'il faut et avec quelle dynamique et quelle cinétique. Et la dernière chose, c'était l'enlèvement de ces marques. Je vous avais décrit comment on enlève la méthylation, par exemple avec les enzymes TET. Pour les modifications des histones, c'est très facile, en fait, parce qu'on savait, même avant la méthylation, qu'il y a beaucoup d'enzymes qui peuvent défaire ce qui a été fait. Donc, ce qui soulève la question, alors comment on arrive quand même à maintenir un certain nombre de marques pour que ça soit réellement stable? Mais on pense qu'effectivement, tout ça est extrêmement contrôlé. Il y a toute une panoplie d'enzymes qui peuvent effectivement effacer, enlever les marques, les modifications des histones dans des contextes spécifiques, et qu'au cours de la division cellulaire, il y a peut-être une dynamique entre les enzymes qui déposent les modifications et celles qui les enlèvent, qui est constamment en jeu. Donc en fait, on enlève, on rajoute, on enlève, on rajoute. Ce qui est important, c'est de pouvoir garder les machineries en place là où il faut, le temps qu'il faut, et c'est ça, je dirais, la question qui est toujours un petit peu effrayante, à quel point finalement on peut envisager une stabilité de ce type de marque, vous, surtout qu'on sait que la chromatine est extrêmement dynamique et qu'il y a de la remodelage et de l'échange des histones qui a lieu aussi au cours du cycle cellulaire, au cours de la transcription et au cours de, comme je l'ai dit, au cours de la réplication. Donc voilà, je voulais juste terminer en disant que la reprogrammation, la réversion d'un état épigénétique peut être soit actif, soit passif. Ça peut être par accident, par exemple au cours de la réplication ou au cours d'un endommagement de l'ADN ou au cours de le vieillissement où on sait qu'effectivement, il y a des changements au niveau de notre épigénome qui peuvent être importants. Alors, je dois terminer très bientôt. Donc, je pense que je vais aller rapidement passer à une dernière diapo, qui est la diapo sur les questions qui restent ouvertes. Et je pense que c'est important de considérer, après tout ce que j'ai dit, finalement, à quel point on peut répondre à des questions qui ont été posées déjà, comme je l'ai dit, il y a même 100 ans, même avant Waddington, à quel point on a répondu à ces questions. Est-ce que les mécanismes épigénétiques, dans le sens, cette fois-ci, héritable, est-ce que les mécanismes épigénétiques sont importants pour le développement? Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire oui, que oui, parce qu'on commence, on a des mutants qui affectent, comme je l'ai dit, certains aspects de la machinerie épigénétique et qui donnent des phénotypes développementaux. Donc, je pense que la réponse est oui, mais on est très, très loin de comprendre exactement comment le génotype rejoint le phénotype au cours du développement. La grande question de Waddington et avant lui d'Aristote, l'épigénèse, comment, finalement, à partir de notre génome, on arrive à avoir un déclenchement d'événements qui se passe quand même de manière extrêmement efficace et contrôlée. Donc, c'est le challenge pour nous tous. Et à quel point les états épigénétiques peuvent être perpétués au cours du cycle cellulaire. Donc, je n'ai pas parlé en détail du cycle cellulaire, mais je vous avais quand même montré qu'au cours de la réplication, il faut quand même maintenir certains états. On peut aussi imaginer, au cours dans une cellule qui n'est même pas en train de se diviser, une cellule... par exemple, neuronal, un neuron qui n'a pas besoin de se diviser, comment il maintient son identité? Cette question que j'ai posée tout à l'heure, quand on dit, ben voilà, finalement, les cellules ne changent pas d'avis comme ça, elles ne changent pas d'identité, mais donc comment on arrive à maintenir ça? Parfois, pendant plusieurs années, une cellule ne va pas se diviser. Quelle est la mémoire de la cellule? Est-ce que c'est au niveau de la chromatine? Est-ce que c'est au niveau des promoteurs des gènes? Est-ce que c'est au niveau de l'ARN? Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais nous commençons à avoir les outils pour les comprendre. La reprogrammation, c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode. Enfin, on entend parler de la reprogrammation et toutes les possibilités avec les cellules iPS, l'induction de la pluripotence, toutes les possibilités thérapeutiques que ça pourrait ouvrir. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? On est loin de comprendre, en fait, comment la reprogrammation a lieu. Une cellule iPS prend 3 semaines, en fait, vraiment d'émerger. Et vraiment, c'est une boîte noire. À partir de la cellule somatique jusqu'à la cellule pluripotente, les vrais événements qui ont lieu, les mécanismes restent vraiment à définir. Et un point important auquel je touchais tout au long de ces deux cours est comment, finalement, les processus épigénétiques peuvent être affectés ou peuvent affecter le vieillissement, la maladie, comme dans le cancer, les changements induits par l'environnement ou les changements induits par notre nutrition. On sait, il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour de ça, surtout l'environnement et la nutrition, à quel point finalement ce qu'on mange a un impact sur nous et sur les générations à venir. C'est une très bonne question. Je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut bien manger, il faut manger ça, et il ne faut pas se soucier trop de votre épigénome, pas trop. Et la grande question qui est liée à ça, c'est à quel point on propage à travers des générations l'information de notre aujourd'hui. Heureusement pour les mammifères, je pense que c'est quand même relativement rare. Chez les plantes, c'est notre histoire. Ah ben voilà, c'était des illustrations pour vous montrer le vieillissement, la pollution et la nutrition. Voilà. Et donc, je vais terminer sur une diapo pour vous faire réfléchir. Voilà. Je voulais quand même vous souligner l'évolution de ce terme juste depuis 1942. On ne parle pas d'Aristote, là. Donc, Conrad Waddington, c'était, comme je l'ai dit, les études du développement, le lien entre génotype et phénotype au cours du développement. Robin Holliday et Art Riggs, c'était finalement cette notion d'héritabilité mitotique ou méotique sans changement au niveau de l'ADN. Denise Barlow, qui était une des grands experts de l'empreinte, a proposé ça. Alors, j'étais assez étonnée, mais effectivement, tout ce qui est bizarre, qui ne peut pas expliquer par les génétiques, pourrait être l'épigénétique. J'avoue que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon. Et là, je suis encore moins d'accord. Alors, lui aussi, c'est un grand épigénéticien, Randy Jethro. Everything we do, everything we eat or smoke can affect our gene expression and that of future generations. Epigenetics introduces the concept of free will into our idea of genetics. Je pense qu'il faut être... Si vraiment tout ce qu'on mangeait ou fumait avait un tel impact sur notre épigénome, on ne serait pas là. Hein. C'est clair qu'on est assez robuste. Hein. L'évolution a bien travaillé. Et donc, finalement, cette définition qui était, je dirais, la plus acceptée récemment, mais avec laquelle il n'y a pas la notion forcément d'héritabilité, c'est celle d'Adrian Bird, que les événements épigénétiques sont tout ce qui est changement des chromosomes pour intégrer des signaux ou pour les perpétuer. Donc, c'est une définition très chromosomique. Donc, on ne parle pas de cytoplasme, on ne parle pas d'héritabilité en particulier. C'est pas mal, mais j'avoue que aussi, ça n'aide pas vraiment à comprendre plus comment ça marche. Et je pense que finalement, tout ce que ça veut dire, c'est peut-être qu'on a besoin de plus de mots. Mais pour l'instant, on va rester avec le mot épigénétique et on va explorer tout ce qui va autour. Voilà, je vous remercie.